Mais la question, alors si vous voulez, la question de la cosmologie de Parménide peut être divisée en deux, doit être divisée en deux, il y a deux aspects. Il y a l'aspect, disons, de la reconstruction du monde de Parménide. Qu'est-ce que, comment Parménide voit-il le cosmos? Qui est une question intéressante en soi, certainement non moins intéressante que la question de savoir comment Anaximandre ou Anaximène voit le cosmos. Et nous verrons quand on abordera cette question, il y a des relations entre les trois cosmogonies et cosmologies. Mais une autre question qui est distincte, c'est celle qui, d'une certaine manière, si on veut, est philosophiquement plus importante, qui est celle de. C'est pas rare en vérité la première, mais qui peut considérer quand même comme plus importante, c'est la question de savoir quel est le statut du monde. Donc quel est le statut de la cosmologie, et donc quelle est la relation entre les deux parties du poème, quelle est la relation entre la théorie de l'être, l'ontologie, et puis la théorie du cosmos. C'est là-dessus, pas que je voudrais insister, mais c'est là-dessus que je voudrais, ce à quoi je voudrais parvenir, ou ce que je voudrais essayer de vous expliquer dans les séances qui viennent. Mais pour l'instant, on va s'en tenir à la première partie du poème, qui est déjà suffisamment compliquée en soi, et essentiellement donc, aux fragments 7 et 8 que vous avez tous, les deux feuilles que j'ai distribuées. On va voir si on en reste, je crois qu'il en reste quelques exemplaires.
Mais ne vous étonnez absolument pas
si vous ne vous retrouvez pas d'une traduction à l'autre, c'est tout à fait... Ça concerne tous les mots. Ça concerne la... c'est extraordinaire. Ça concerne vraiment tous les mots. Voilà. Alors... quelques mots sur quelques mots de rappel sur... Donc vous avez vu cet ensemble composé du fragment 7 et du fragment 8. Le fragment 7, ce sont les 6 premiers vers, et puis le fragment 8 commence à seul subsiste le récit de la route que l'est. Bon, alors quelques mots sur sur le fragment 7, donc sur les 6 premiers vers. On a ici affaire manifestement à un rappel ce qui a été obtenu dès le fragment 2 de Parménide, que je vous avais distribué les autres fois sur l'autre feuille, le fragment 2 qui contient l'interdit de Parménide, avec donc la distinction, l'énumération des deux voies, la voie... Alors, jusqu'à présent, que j'ai appelé la voie de l'être et du non-être, que je vais à partir de maintenant appeler plus exactement la voie de est et la voie de ne pas est, ou de n'est pas. Mais ne pas est encore plus étrange et peut-être plus exact. C'est certainement plus exact. Les deux voies, il y a la voie de est, que j'écris entre guillemets, comme vous le verrez dans la traduction. C'est la traduction la plus littérale du grec possible, parce que dans le grec, il y a simplement le verbe esti à la troisième personne du singulier, correspondant exactement à est. Vous aurez du mal à suivre si vous n'avez pas le texte. Hein. Vous ne l'avez pas ?
Vous parlez à moi ?
Oui.
Ben, j'ai pas de texte, désolé.
Mais je vous dis, vous aurez du mal à suivre.
Ben, je peux rien faire, désolé.
Si, il y a beaucoup de choses à faire.
Il y a déjà le texte.
Je vais dire, je n'ai pas de texte, par exemple, c'est tout. Moi, je n'en ai plus, donc il faut que vous vous mettiez avec quelqu'un.
Merci.
Voilà, donc, le « est » que vous avez, par exemple, à... Le deuxième vers du fragment 8, seul subsiste le récit de la route que est. Est, c'est, je l'ai mis entre guillemets, pas de guillemets naturellement en grec, mais je le mets entre guillemets pour indiquer que c'est vraiment le verbe qu'emploie Parménide, la voie de l'être, c'est la voie de est, c'est-à-dire du verbe être conjugué sans sujet, sans prédicat, à la troisième personne du singulier. Et le fait qu'il n'y ait pas de sujet, qu'il n'y ait pas de prédicat est extrêmement important. Quand on dit la voie de l'être, déjà l'être, ça commence à... les yeux commencent à tourner, parce qu'on se demande de quoi il s'agit exactement. Ça peut désigner beaucoup de choses. Plus, dans beaucoup de traductions, vous le rencontrerez avec des majuscules. Bien dire que c'est important. Et en fait, ce qui est important, c'est que l'être est déjà, comment dire, ajoute quelque chose d'essentiel à ce que Parménide dit. Il ajoute deux choses qui n'en font qu'une. Il ajoute l'article et il retranche en fait le verbe. C'est-à-dire quand on dit l'être, on peut entendre en français l'action verbale de être. Mais on n'est pas tenté d'entendre l'action verbale du verbe être, on est plutôt tenté d'entendre ce qui est. L'être, c'est ce qui est. La route de Parménide commence non pas avec l'être au sens de ce qui est, ça commence avec être si l'on veut, mais être même n'est pas exact ou n'est pas assez précis, ça commence avec être. C'est pas la notion d'être, si vous voulez, mais c'est une place vide, être, et une place vide, pas place vide, c'est être. C'est le terme, c'est un terme syntaxique, si vous voulez, qui est détaché de son contexte syntaxique. C'est un élément de syntaxe, c'est l'élément d'une phrase, c'est l'élément d'une phrase qui est détaché de toutes les phrases particulières dans lesquelles il peut entrer. Donc, au fond, c'est quelque chose d'extrêmement banal. Parce que nous employons à tout bout de champ le mot être naturellement et qu'on emploie essentiellement d'abord dans une relation objectivante pour décrire quelque chose dont on dit que cela est, que cela est telle chose. On dit est. Parménide arrache, encore une fois, la copule ou le est de son contexte syntaxique pour en faire un point de départ absolu. Donc il faut une première chose très importante, c'est de se débarrasser de toutes les représentations objectivantes qui peuvent être liées à une traduction, par ailleurs peut-être nécessaire pour l'intelligibilité du français, mais qui fausse la représentation. On n'est pas en train de parler d'une chose qui est. Ce n'est pas une chose qui est. On pourrait dire, dans un autre sens, dans une autre formule, on pourrait dire, il ne s'agit pas d'un étang, en utilisant cette traduction dérivée Heidegger. Je ne suis pas du tout l'analyse pour d'autres. Surtout pas en ce qui concerne Parménide, mais si vous voulez, qui aide à, avec la distinction entre l'être et le temps, qui aide à saisir quelque chose d'analogue à ce qui se passe chez Parménide. On peut utiliser cette différence entre être en tant que verbe et étant en tant que chose qui est le sujet de cette action verbale d'être, ça c'est une distinction utile, donc sans la charger du tout de la connotation heideggerienne, encore que ça a quelque chose à voir, on peut distinguer entre, disons, cet acte d'être auquel on fait référence quand on utilise la troisième personne du singulier est, dans n'importe quel contexte, d'une part, et la chose qui est le sujet de ce verbe être, et qui se trouve être. Ça va? C'est pas trop difficile, ça. Même de simplicité enfantine. Bon. Alors, non, parce que je vois des yeux un peu inquiets. Ça va? Vous me dites si l'inquiétude gagne, vous intervenez. Premier point. Donc, ce dont Parménide est en train de parler, c'est qu'il a dit jusqu'à présent, c'est que, dans le fragment 2, déjà, parce que cet usage de « est » est déjà dans le fragment 2, « est » est le nom de la voix, si vous vous souvenez. Il y a deux voix, il y a la voix de « est » et il y a la voix de « ne pas être ». C'est les deux voix. L'une des deux voix est exclue, comme voie de recherche, c'est une voie un peu paradoxale, parce que c'est une voie qu'on peut la suivre. Alors qu'en général, la caractéristique d'une voie, c'est qu'on peut la suivre. Elle peut ne mener nulle part. En général, on peut la suivre. Là, parmi nous, il est beaucoup plus radical, il dit qu'en fait, c'est une voie qui est une non-voie. C'est une voie contradictoire, c'est une voie qui ne permet pas d'avancer. On ne peut rien faire. C'est impraticable. C'est impraticable. Et c'est impraticable parce que, c'est ça l'argument, on ne peut pas penser ne pas être. On ne peut pas penser ne pas être. Tout ce que l'on pense est nécessairement de l'ordre de est. On ne peut pas penser quelque chose qui... vous voyez, c'est difficile à dire en français, parce que je viens de dire quelque chose qui ne soit pas. La syntaxe m'oblige à introduire un sujet pour rendre intelligible ce dont je parle. Mais en vérité, Parménide est plus radical que ça. Il est plus radical que ça. Il ne dit pas qu'on ne peut pas penser quelque chose qui ne soit pas. On peut même penser quelque chose, c'est déjà est. Mais on ne peut pas penser l'absence de est. C'est-à-dire qu'il y a, pour le dire positivement, si vous voulez dire, il y a une relation essentielle entre ce que Parménide dit dans d'autres fragments. Il y a une relation essentielle entre penser et être, c'est-à-dire qu'il n'y a de pensée véritable que de est. Alors, je m'excuse de l'étrangeté de la formulation, mais je pense que c'est bien de se baigner un peu dans ce vocabulaire étrange pour, encore une fois, ou dans cette syntaxe étrange, pour ne pas faire de fausses associations. Donc on ne peut penser que est. C'est extrêmement proche, je veux dire, dans la radicalité du geste, dans l'exclusion de ne pas être, et dans la concentration sur ce seul mot, est. Concentration sur un seul mot. C'est extrêmement proche du cogito cartésien. C'est-à-dire que vous avez aussi, chez Descartes, l'élimination de tout, sauf ce reste inexpugnable qu'est le « je pense ». Ça n'a pas du tout la même fonction, naturellement, chez Parménide, chez Descartes. Mais ça a la même, disons, radicalité. On se retrouve avec « est ». Alors, naturellement, la question, c'est très intéressant, même le rapprochement avec Descartes, c'est intéressant pour la question de la méthode, la question de la voie, de la procédure, etc., mais c'est également intéressant pour la relation, disons, entre la pensée et l'être. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, Parménide part aussi de la pensée. Je pense. Mais c'est... Ce qui peut être pensé, s'il y a une chose qui peut être pensée, mais vous voyez, chose et de trop, de nouveau, s'il y a, on est presque tenté de dire un X, on ne sait pas, s'il y a un X qui peut être pensé, c'est est. Cette proposition, important que je traduis en langage plus vulgaire pour ne pas quand même trop insister, mais vous aurez compris, cette proposition selon laquelle il n'y a de pensée que de l'être. Est une proposition qui est, disons, éminemment contestable. Platon aura des objections contre, qu'on verra. Aristote aussi. Mais d'une certaine manière, c'est un trait qui est commun à la majeure partie de la pensée antique. C'est-à-dire, c'est quand même, bien que Platon et Aristote le contesteront, c'est aussi une idée dans laquelle ils peuvent se reconnaître, sous une forme un petit peu plus précise ou modifiée, quand ils disent que il n'y a de quand ils le disent, ce qui n'est pas toujours le cas, mais quand ils le disent, ils disent que il n'y a de connaissance que de l'être. C'est-à-dire qu'il y a un objet spécifique qui est celui de la connaissance. On ne peut pas connaître toute chose. Selon Platon dans la République en particulier, on ne peut pas connaître toute chose parce que pour être connaissable, il faut que l'entité possède un certain nombre de traits distinctifs particuliers. Par exemple, pour Platon, il faut, pour qu'une chose soit connaissable, qu'elle soit. Platon l'entend de la manière suivante, il faut qu'elle soit, c'est-à-dire qu'elle ne devienne pas. C'est-à-dire que dans la République, du moins, et dans le Timée aussi, il n'y a pas de connaissance du monde sensible. Il n'y a pas de connaissance de ce qui devient. Au sens propre du terme connaissance. Il peut y avoir des jugements, il peut y avoir des jugements vrais, il peut y avoir, ce qu'on appelle en général, des opinions. Il y a des facultés épistémologiques qui sont adaptées à un certain type d'objet. Cette pensée de la relation entre une faculté, une disposition épistémologique, et un certain type d'objet, à l'exclusion d'autres types d'objets, est une intuition ou est une pensée que l'on peut saisir déjà dans Parménide, avec cette relation forte, essentielle, établie entre l'être et la pensée. Un des textes que nous étudierons un peu plus de l'année, qui est le traité du non-être de Gorgias, représente une des premières réfutations explicites. Nous verrons qu'il y a des réfutations implicites de Parménide dans chez les philosophes pré-socratiques post-postérieurs. Dans le traité du non-être de Gorgias, qui est un traité anti-parménidéen, vous avez très clairement cette idée qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas et que nous pouvons penser. Par exemple, vous pouvez penser que vous êtes dans une piscine, au soleil, en terre, en train de vous faire bronzer. Rien n'interdit que vous le pensiez. C'est naturellement pas parce que vous le pensez que cela est. Gorgias utilise d'autres exemples. Il utilise l'exemple d'attelage ailé. De fiction. Il y a beaucoup de choses que l'on pense et dont on ne peut pas seulement, évidemment pas dire, du fait qu'on le pense, qu'elles sont. Autrement dit, il n'y a pas de passage légitime. Selon Gorgias, de la pensée à l'être. Et en effet, on pourrait se dire que la proposition de Parménide, qui consiste à nier que l'on puisse penser le non-être, ou des choses qui ne sont pas, quelque chose d'extrêmement improbable. En fait, l'expérience quotidienne nous prouve que l'on peut parfaitement penser à des choses qui ne sont pas. Donc, si Parménide dit qu'on ne peut penser que l'être, et qu'on ne peut pas penser le non-être, c'est qu'il doit accorder au terme de pensée une valeur particulière. Penser n'est pas simplement une attitude mentale consistant à, par exemple, imaginer, se représenter, rêver. Ça n'est pas de la pensée dans ce sens. C'est une activité extrêmement précise que l'on peut appeler penser au sens fort. Cette pensée au sens fort a un nom grec, c'est le nom qui restera chez Platon, et chez Aristote d'ailleurs, c'est le nous, donc si vous voulez, ce que l'on traduit en général par intellect. C'est pas tout acte de pensée, c'est un acte de pensée spécifique qui consiste dans la saisie réelle de la chose dont l'intellect est le corrélat. Parfois c'est souvent traduit, ou ça peut être traduit par intuition aussi. En tout cas, si vous relisez la République de Platon, vous verrez que le nous, c'est l'instrument épistémologique de la saisie des formes. Donc, de même qu'il y a une relation essentielle entre le nous platonicien et les formes, le nous, l'intellect, ne saisit pas toute chose, il ne saisit que les formes, de même qu'il existe une relation essentielle entre le nous et les formes, que les formes sont l'objet du nous et que le nous n'a pour objet que les formes, de même il existe une corrélation essentielle entre la pensée au sens fort, chez Parménide, et l'être ou l'être. Alors, cet interdit de penser le non-être en ce sens, ou le non-être, au sens fort du terme pensée, parce que d'une certaine manière, l'argument de Borgia, c'est un argument brillant, si vous voulez, mais c'est un argument facile. Parce que ce que Borgia fait, dans le traité du non-être, c'est simplement de dire à Parménide, tu emploies le mot pensée dans un sens qui est contre-intuitif. C'est-à-dire, tu emploies le mot pensée dans un sens trop fort, ou exclusivement fort, alors qu'il n'y a aucune raison de réserver le mot de pensée à ce type de pensée-là. Tout acte mental, dirait Gorgias, peut être qualifié de pensée, et si tout acte mental peut être qualifié de pensée, eh bien, il est parfaitement possible que la pensée ait pour objet ce qui n'est pas. C'est un argument faible parce qu'il y a une certaine plausibilité à admettre que la pensée puisse se prendre dans un sens plein, ou qu'il y ait un sens du mot pensée qui soit, disons, quelque chose comme une pensée par excellence. On dit que cette pensée par excellence, je l'appelle connaissance. Parménide connaît le mot déjà de connaissance, déjà. Il l'utilise en conjonction avec le mot de pensée. Il y a une connaissance qui est une connaissance réelle, vraie. Et cette connaissance réelle, vraie, alors vous voyez, j'ajoute le mot de vérité là, au mot de connaissance, le mot de pensée, cette pensée vraie, on peut comprendre relativement facilement qu'il existe une relation essentielle entre la pensée vraie et la pensée de ce qui est. Ce qui est, effectivement, dans un certain sens du terme est, est l'objet, le corella. Peut-être le mot de corella est la meilleure façon de rendre cette relation intrinsèque chez Parménide entre l'être et la pensée. Il y a un corella de la pensée qui est l'être, une indissociabilité qui fait que si on ne choisit pas la voie du est, eh bien on tombe dans la non-pensée. On n'a plus de pensée à proprement parler, faut-il rajouter. Alors, cet argument, donc, qui est. Ce que je vous ai dit, c'est que c'est un argument à la fois d'une certaine manière implausible, mais d'une autre manière plausible. C'est-à-dire que, et de fait, évidemment, l'ensemble des penseurs postérieurs à Parménide, jusqu'à Platon compris, et Aristote compris, ont pris cet argument tellement au sérieux qu'ils ont cherché, alors écoutez-moi bien, qu'ils ont cherché à en contourner les effets, les implications, sans nécessairement renoncer au principe lui-même. C'est-à-dire qu'ils ont voulu échapper aux conséquences qui sont déroulées dans la suite du fragment de Parménide et qui toutes dérivent de cette interdiction de penser le bien-être. Et nous verrons quelques-unes des manières dont les penseurs post-parménidiens ont à la fois accepté le principe de Parménide et ont cherché à en contourner les effets. Et ce qui va m'intéresser maintenant, ce sont quels sont les effets de cette exclusivité de la relation entre l'être et la pensée. Dans le fragment 7, c'est-à-dire dans le début du texte que je vous ai distribué la dernière fois, il y a un rappel, le premier vers, c'est un rappel de l'interdit du fragment 2. Jamais tu ne dompteras ceci, c'est-à-dire tu ne dompteras, c'est-à-dire tu n'arriveras, comme on le fait d'un cheval rebelle, à apaiser, tu ne parviendras jamais à maîtriser ce que la proposition qui accepte l'être des choses qui ne sont pas je crois qu'il manque ici un qui ne sont pas hein, dans le, à la fin du premier vers que soient des choses qui ne sont pas pour le dire en termes encore une fois un peu inexacts que le non-être soit cela, jamais tu n'arriveras à le maîtriser, c'est-à-dire tu ne peux pas obtenir que ce soit le cas. Tu ne peux pas en faire une proposition qui ne soit pas rebelle, pour ainsi dire. C'est une proposition qui... cette proposition que les choses qui sont ne soient pas, c'est une proposition qui se cabre comme un cheval. Et jamais on ne peut maîtriser quelque chose qui est une contradiction interne, ce que Parménide appelle, considère comme une contradiction interne, c'est-à-dire que soient des choses qui ne soient pas. Et là, il dit que soient des choses qui ne soient pas. Hein, ça, c'est bien traduit, il y a un sujet, il y a un verbe, etc. J'y reviendrai. Et alors, l'injonction, c'est « Retiens ta pensée à l'écart de cette route de recherche et que l'habitude abondante dans l'expérience ne te contraigne pas sur cette route à exercer un œil sans but, ni une oreille sonore et une langue, qui est aussi sonore, mais tranche par le logos la mise à l'épreuve abondante en dispute que j'ai formulée. Quelques mots de commentaire pour expliquer cette formulation un peu obscure. Parmeni décrit évidemment ici ce qui pourrait s'opposer à l'acceptation de l'interdit. Ce qui s'oppose à l'acceptation de l'interdit, ce qui fait que l'on résiste à l'acceptation de l'interdit et de ses conséquences, c'est quelque chose qu'il nomme habitude, qu'il associe à l'expérience, qui est l'expérience de tous les jours, qui est l'expérience des mortels, et qui est l'effet de ce que nous apprennent l'œil, l'oreille et la langue, c'est-à-dire les instruments de la perception d'un certain côté, et la langue, l'instrument de la parole de l'autre côté. Donc il faut écarter œil, oreille et langue. Vous voyez, il ne faut pas seulement écarter oreille et œil, il ne faut pas seulement écarter la perception, mais il faut aussi écarter la parole, d'une certaine manière, la langue, ce que l'on dit. Mais ce qu'il faut faire, c'est trancher par le logos, qui est la première occurrence dans toute la littérature grecque, littérature philosophique, avec cette réserve, mais qui est la première occurrence ici dans toute la littérature grecque, du logos dans un sens qui est clairement celui de raison. Parce que logos, en général, en grec, signifie, dans les textes archaïques, le récit, le discours, l'idée que ce récit, ce discours soit un discours rationnel, ne joue aucun rôle. Mais là, il s'agit de trancher par le logos, la mise à l'épreuve, c'est-à-dire la confrontation entre les deux voies possibles, celle de est et celle de non-est. Il y a deux voies qui s'ouvrent, celle de est et de non-est, et il faut trancher entre les deux. Il faut trancher entre les deux en mettant à l'épreuve la possibilité de penser l'une et l'autre. Et une fois qu'on a écarté la possibilité de penser la voie de non-est, eh bien, il faut s'en tenir strictement à est. C'est une épreuve abondante en dispute parce que elle est l'objet de contestations nombreuses. Ce n'est pas facilement que l'on abandonne la voie du non-être entretenue par l'habitude et les organes de la parole et de la perception. Mais il faut la trancher, la décider. Le mot est krisis, ici, en grec, qui signifie le jugement, la division. Et il faut vraiment trancher, comme on tranche dans la vie. On peut trancher entre les deux. Et la chose très importante ici, c'est que cette décision est une décision absolue, c'est-à-dire que on est devant deux routes et si on entre dans une route, celle de est, eh bien on abandonne nécessairement l'autre route, il n'y a aucune communication entre les deux. C'est un jugement dans tous les sens du terme, c'est une décision qui est le résultat d'une disjonction exclusive. Voilà, c'est ça le point. Il s'agit d'une disjonction exclusive. Il n'y a pas de communication entre la voie du non-être et la voie de l'être. Et la disjonction exclusive en faveur de la voie de est est une décision difficile. Pourquoi difficile ? Parce qu'elle résiste à tout ce qui, du côté de l'habitude, de l'expérience, de la sensation, nous met sur la voie du monde. Voilà. grâce demandée, pas très difficile, mais enfin il faudra quand même le dire un peu plus loin, quelle est la relation entre l'expérience, l'habitude, le sens et le non-être. Pourquoi notre voie habituelle est celle qui implique le ne pas, qui suppose le ne pas, est-elle la voie du ne pas, qui est une voie, encore une fois, qui en vérité n'est pas une voie du tout. C'est une voie qui est quelque chose qui ressemble à de l'errance. Bon, alors, une fois cette disjonction exclusive tranchée, Parménide dit, seul subsiste le récit de la route que est. Alors, le récit de la route que est, qu'est-ce que c'est? Eh bien, comme je vous l'ai dit, la route s'appelle est. C'est son principe. Le seul mot légitime sur cette route. Et, tel que je comprends le texte, il peut y avoir d'autres compréhensions, ce mot, qui est un mot isolé, petit mot est, donne lieu à un récit. C'est-à-dire, on peut dire des choses, on peut compter des choses à propos de ce est. Et l'analyse qui suit, donc le reste du fragment 8, jusqu'à pratiquement toute la fin, est le récit de tout ce que l'on peut dire de est. Dire quelque chose de « est », ça signifie produire des énoncés qui ont pour sujet le terme « est ». Produire des énoncés qui ont pour sujet le terme « est », c'est, si vous voulez, caractériser ce que « est » signifie ou implique. Qu'est-ce qu'on dit quand on dit « est » ? D'une certaine manière, ce qui suit, si vous voulez, est une explicitation du sens du mot « est ». Et c'est pour ça que Platon reconnaît dans Parménide le père. Ça, c'est pour ça que Platon reconnaît dans Parménide le fils, il appelle Parménide le père. Pourquoi le père? Parce que c'est Parménide qui, la première fois, réfléchit sur la signification du mot « est » en tant que père. Là, vous comprenez la différence immense. C'est pas Parménide, par exemple, d'Anaximène ou d'Anaximandre. Parce que précisément, dans les termes que je vous ai expliqués tout à l'heure, Anaximandre ou Anaximène disent qu'est-ce qui est. L'un dit ce qui est, c'est l'infini. Ce qui est, c'est l'être. Et on a toujours un sujet qui est. Ce qui disparaît chez Parménide, c'est le sujet. Ou plus exactement, c'est-à-dire le sujet syntaxique. Vous comprenez? Ce qui disparaît, c'est le sujet syntaxique. Quand je dis que est est le sujet des énoncés du récit de Parménide, c'est sujet dans un autre sens. Et peut-être même dans un sens syntaxique. C'est-à-dire que le mot est devient le sujet de propositions qui ont pour sujet « est ». Mais ce « est » n'est pas lui-même le verbe d'un autre sujet. C'est comme un déplacement de niveau. Vous comprenez ? C'est comme si, alors par exemple, l'air est... L'air, si vous faites disparaître l'air, il y a « est ». Et « j'écris comme ça, peut de nouveau être le sujet d'autres énoncés. Et c'est vers lui que s'est déplacé Et donc, en ce sens, une façon de traduire ce déplacement, cette concentration sur le terme est, qui est encore une fois un processus d'abstraction extraordinaire. Vous ne parlez plus de ce qui est, mais vous parlez de est. Alors, en ce sens, seulement en ce sens, on peut dire que Parménide parle de l'être. Il parle de l'être dans la mesure où, précisément, il parle de la signification du terme est. Alors Platon, dans le Sophiste, reconnaît cette grandeur de Parménide. Il la localise là, dans le fait qu'il soit le premier à avoir parlé de ce que j'appelle maintenant, pour faciliter les choses, le sens du terme être. Et en même temps, il dit que Parménide nous traite comme des enfants, dit-il, nous raconte des mythes. Platon. Pourquoi Parménide nous raconte des mythes selon Platon? Pourquoi il nous traite comme des enfants? C'est parce que, dit Platon, il ne daigne pas nous dire en quel sens il prend le mot être. C'est-à-dire que Platon lui reproche en fait de ne pas avoir véritablement fait ce que pourtant il reconnaît comme étant le premier à avoir fait. Il y a un double standard, si vous voulez, qui n'est d'ailleurs pas très compliqué à comprendre. Il est le premier à avoir posé la question du sens de l'être parce qu'il a simplement parlé de l'être en tant que tel, c'est-à-dire il a isolé, à travers cette abstraction du terme « est », il a identifié « est » comme un problème. Et en ce sens, il a été le premier à poser la question du sens du mot « être ». En même temps, il n'a pas répondu de manière intelligible, satisfaisante, à la question de ce que signifie le mot « être ». Pourquoi Platon peut dire ça? Parce que Platon, dans le Sophiste, on y reviendra peut-être, à un moment ou à un autre, Platon, dans le Sophiste, assimile en fait la position de Parménide à ceux il assimile la position de Parménide à ceux des penseurs qui le précèdent et qui assimilent et qui parle de ce qui est. C'est-à-dire que Platon à la fois dit que Parménide a posé la question du sens du terme être et fait comme si Parménide avait donné une réponse analogue à celle que l'on trouve chez Anaximène ou Anaximandre, c'est-à-dire que, en fait, alors qu'il prétend parler du sens du mot être, Parménide nous parle de ce qui est. Il retombe. Alors, si vous voulez, encore une fois, je recite Heidegger, qui n'est pas un de mes auteurs favoris, mais qui, sur ce point, est utile, c'est-à-dire la question de la différence ontologique. Quelque chose de réellement utile pour comprendre de quoi il s'agit ici. C'est-à-dire, il y a une différence entre parler de l'être et parler de ce qui est. Chez Heidegger, ça prend la forme de être et étant. Si vous lisez le Sophiste de Platon, vous verrez que le Parménide de Platon est quelqu'un qui dit que tout est un. La formule que Platon prête à Parménide, la thèse que Platon formule à Parménide, c'est « tout est un ». Une formule que jamais nous n'allons rencontrer chez Parménide, et qui résulte d'une histoire de l'interprétation de Parménide, sur lesquelles je vous donnerai un certain nombre d'éléments au fur et à mesure du séminaire. Voilà. Donc, moi, m'intéresse pour l'instant non pas au Parménide tel que finira par le dire Platon, comme au fond retombant dans les un niveau de pensée antérieur, mais je m'intéresse au Parménide qui pose la question de savoir ce que c'est que est, que signifie est, comment caractériser est. Et la suite du fragment dit donne une série de caractérisations de ce est, et ces caractérisations sont appelées par Parménide des signes. C'est le mot que vous avez ici. Seul subsiste le récit de la route que est, sur celle-ci, sur cette route, il y a des signes en grande quantité. Et à partir de là, commence une énumération qui n'est pas véritablement une énumération, qui est, qui est à la fois une énumération et partiellement une argumentation en faveur de, différentes caractéristiques de est. C'est là que est devient, si vous voulez, le sujet dénoncé, il devient le sujet de prédication, est peut répondre à un certain nombre de caractéristiques. Et alors, la première caractéristique de est, c'est que est est inengendré et impérissable. Alors, je lis les autres, simplement, inengendré et impérissable, entier, seul de sa race, sans tremblement et sans fin. N'y a-t-il jamais été, ni ne sera, puisqu'il est maintenant ensemble, en totalité, un, continu. Et ensuite vient un argument qui porte sur, qui va revenir sur cette série de prédicats, mais là je donne simplement la structure du texte, vient un assez grand argument sur l'impossibilité de penser la naissance de est. Et vous voyez un peu plus bas la décision sur ces sujets réside en ce point est ou pas est. Donc il y a le nom de la voix, la décision, c'est toujours la crisis. La décision sur ces sujets réside sur ce point, est ou pas est. Or la décision a été prise, comme il est inéluctable, de laisser celle-ci impensée et sans nom, c'est la voix du non-être, car elle n'est pas la voix juridique. Et celle-là, il a été décidé donc de la laisser exister et être réelle. Et ensuite, en faveur de l'argument, à la suite de l'argument de la non-naissance de est, il y a l'argument de l'impossibilité de sa destruction. Et ce premier ensemble se conclut par l'expulsion de la naissance et de la mort. Ainsi éteinte est la naissance et la mort dont on ne sait rien. Alors, oui, c'est très très beau, ça je vous le dis au passage, la mort dont on ne sait rien, c'est une expression homérique qui se comprend dans le contexte d'Homère, c'est-à-dire que la mort c'est ce dont aucun mortel ne sait quoi que ce soit. Ce sur quoi on n'est pas informé. Mais Parménide réutilise l'expression, premièrement pour dire que de la mort, on ne sait rien, mais dans l'idée que le non-être n'est pas connaissable en soi. Ce qui n'est pas, n'est-ce pas, c'est réinterprété à la lumière de l'idée qu'il n'y a pas de pensée du non-être, et lui associer la naissance, c'est-à-dire que la naissance, d'une certaine manière, est aussi inconnaissable. On ne peut rien savoir, on ne peut rien connaître, on ne peut rien penser de la naissance et de la mort. Donc, résumons. Il y a deux prédicats, deux caractéristiques principales qui sont la naissance et le devenir, plus exactement l'inengendrement, l'impossibilité de la naissance et l'impossibilité de la destruction, inengendrée et impérissable. Et puis il y a d'autres prédicats dont il n'est pas question dans cette argumentation, qui sont entiers, seuls de sa race, sans tremblement et sans fin. Je laisse ces prédicats de côté pour l'instant pour me concentrer uniquement sur les deux prédicats qui sont d'une certaine manière les prédicats principaux de l'être de Parménide, qui sont l'inengendrement et l'impérissabilité. Pourquoi inengendré et impérissable? Eh bien, l'idée, c'est que l'engendrement, tout comme la destruction, implique la pensée, implique que l'on pense ce qui ne peut pas être pensé. Vous voyez, comme tout dépend de l'interdit, c'est-à-dire que pour penser, c'est assez simple à comprendre, c'est argumenté avec des arguments intéressants qui auront leur histoire philosophique ensuite, sur lesquels je dirai quelques mots tout à l'heure, mais d'un point de vue intuitif, c'est relativement simple à comprendre. Évidemment, la naissance suppose un passage du non-être à l'être. Et la destruction suppose un passage de l'être au non-être. Et si vous interdisez la pensée du non-être parce qu'elle ne peut pas être pensée, parce qu'elle n'est pas un objet de pensée, eh bien, naturellement, vous devez exclure de l'être la notion de naissance comme la notion de destruction. Alors ces arguments, vous voyez, je les lis rapidement avec vous, je n'explique pas tout parce que ça nous prendrait, c'est pas l'objet, ça nous prendrait trop de temps, mais quelques points importants quand même. Donc je laisse de côté toujours les autres prédicats. Car quelle naissance pourrait-il lui rechercher? Comment, d'où aurait-il cru? Comment d'où aurait-il cru? C'est-à-dire la seule réponse possible. Je ne te laisserai pas dire que c'est à partir de ce qui n'est pas, ni ne laisserai-je te dire, ni te laisserai-je le penser, car il n'est pas dissible, ni pensable, que pas être. Vous voyez, toujours cette idée du critère absolu. Alors évidemment, on voit très très bien ce que c'est que l'expérience et ce que c'est que l'habitude, parce que évidemment, nous pensons continuellement en termes de naissance et de destruction. Les choses naissent et les choses périssent. Et nous vivons dans l'alternance de la naissance et de la destruction. Or, c'est précisément ce que le logos strict ne permet pas de penser, quel que soit le caractère, comment dire, contrafactuel des propositions qu'il énonce. Contrafactuel, c'est-à-dire qu'il faut naturellement tourner le dos entièrement à des représentations qui sont fondées sur la notion de non-être, puisqu'elles impliquent constamment l'idée de la naissance et de la destruction. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose d'extrêmement, d'une certaine manière, d'assez fou et d'assez ascétique. Hein. Ce que chez Aristote, ce que Aristote décrira comme étant le paradoxe, au sens fort du terme. Pour Aristote, Parménide est un auteur paradoxal, c'est-à-dire il va contre l'opinion commune, et ça pour Aristote c'est pas bien, parce que tout le monde sait naturellement que les choses naissent et les choses meurent. Tout le monde sait qu'il y a de l'être et du non-être. La décision purement logique de Parménide, sur la base de cette conception épistémologique de la pensée, n'est-ce pas, de l'interdit plus exactement, Eh bien, cette conception radicale oppose les nécessités de l'argument à, si vous voulez, la réalité de l'expérience, avec fermeté absolument imparable. Donc il continue pour dire donc ou bien il nécessite, alors car il n'est pas difficile d'y, et quelle nécessité l'aurait poussé à surgir plus tard que plus tôt s'il avait commencé de rien. Donc ça c'est très important, parce que vous savez, on a dans ce fragment vraiment, c'est assez extraordinaire, on a dans ce fragment, comment dire, comme les premiers schèmes, des schèmes philosophiques qui vont parcourir ensemble toute l'histoire de la philosophie. L'argument selon lequel, d'abord on commence par dire qu'il n'est pas possible de penser la naissance et la mort parce qu'elles impliquent le non-être qui n'est pas pensable. Ensuite, on concède que même si il y avait naissance à partir du non-être, donc on concède ce qu'on a refusé, même s'il y avait naissance à partir du non-être, il n'y aurait aucune raison pour penser que ce passage de la naissance à l'existence s'est effectué à tel moment plutôt qu'à tel autre. C'est extraordinaire, le principe de raison suffisante qui est ici, pas formulé, mais qui est mise en œuvre, mise en pratique. Quelle nécessité l'aurait poussé à surgir plus tard ou plus tôt ? Pourquoi à tel moment ? Admettons qu'il soit né, ou qu'il y ait une naissance plus exactement, pourquoi à tel moment plutôt qu'à tel autre ? Aussi, il est nécessaire ou bien qu'il soit totalement ou pas du tout. Disjonction exclusive. Et la force de la certitude n'affirmera jamais non plus que de ce qui n'est pas, naisse quelque chose à côté de lui. Je passe pour l'argument qui est un peu compliqué. C'est pour cela que justice ne l'a laissé ni naître ni périr en relâchant les entraves, mais le maintient. Voilà. L'être se maintient et être ne périt ni ne naît. Voilà. Alors, ça, d'une certaine manière, c'est la paire de prédicats principaux, la paire de signes principaux, l'exclusion de la naissance et de la destruction. Et maintenant, la question est de savoir, je vous ai dit tout à l'heure, l'absence de destruction et l'absence de naissance, en dépit du fait que j'ai employé le vocabulaire objectivant constamment contre lequel je vous ai mis en garde, parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement si on veut avancer des phrases intelligibles, mais je reviens maintenant à une analyse plus précise, si vous voulez. Cette absence de naissance et l'absence de destruction ne concerne pas un objet qui est, elle concerne la notion d'être en elle-même. Elle concerne le est lui-même. Alors ça ouvre des abîmes philosophiques, interprétatifs et philosophiques. Donc je vais vous donner un seul petit temps pour commencer. C'est très très important. permettez-moi de vous dire une chose préalable. Cette distinction que j'ai faite entre l'action verbale d'être, telle qu'elle est visée par l'usage de la troisième personne du singulier, est, et la distinction entre ça, l'usage verbal du verbe être, et le sujet possible de cette action verbale, c'est-à-dire ce qui est. Cette distinction, elle est valable au début de l'argument de Parménide. L'argument de Parménide commence par raisonner exclusivement sur le est. Mais au fur et à mesure que le est s'enrichit des signes ou des caractéristiques qui lui conviennent. C'est-à-dire au fur et à mesure qu'on apprend plus de choses sur ce que implique la notion de être. À savoir, par exemple, on ne prend que ces prédicats, qu'il est un, qu'il est continu, qu'il est homogène, qu'il est tout entier, ensemble, etc. Il y en a toute une série. Une série qui est assez difficile à établir exactement dans son ordre, mais on voit bien qu'il y a toute une série de prédicats. Au fur et à mesure que les prédicats de ce est se démultiplient, le est lui-même se, comment dire, réifie, il se transforme en chose, il devient un sujet, non pas au sens d'un sujet, d'un thème sur lequel on parle, au sens où je vous ai dit tout à l'heure que Parménide déplaçait l'intérêt du sujet à un autre sujet. Ce est devient une chose. Ou quasiment une chose. C'est très difficile à savoir s'il devient vraiment une chose ou quasiment une chose. En tous les cas, il se choséifie incontestablement parce que dans le dernier vers du fragment 8, ou pas dans le dernier vers du fragment 8, dans le dernier vers de la section sur la vérité du fragment 8, l'être est dit être semblable à une sphère bien arrondie. Parménide ne dit pas que l'être est une sphère. Il dit qu'il est semblable à une sphère. Et on peut se demander dans quelle mesure l'utilisation de la comparaison, c'est-à-dire le constat d'une similitude entre l'être et une sphère bien arrondie, on peut se demander si l'usage de cette comparaison n'a pas précisément pour fonction d'empêcher ce que je viens d'appeler la réification totale de l'être parménidéen. Parce que, naturellement, être semblable à une sphère, quand on dit qu'une chose est semblable à une autre, c'est aussi dire qu'il y a une différence qui subsiste entre les deux, et que il serait faux de dire que l'être de Parménide est une sphère. Non, il est semblable à une sphère. Il est comparable à une sphère. Mais en dépit de cette restriction très importante, il reste qu'un chemin est parcouru dans le fragment 8 de Parménide qui mène du pur est au sens verbal à quelque chose qui ressemble quand même à un étang ou qui est sur la voie de l'étantification, si vous me permettez ces horreurs. Voilà, ça c'était la première chose. Alors, la deuxième chose, et j'arrêterai là-dessus, c'est relativement au prédicat de 1. Alors, il apparaît, le prédicat de 1, assez tôt, je reprends là, « N'y a-t-il jamais été, ni ne sera, puisqu'il est maintenant, ensemble, en totalité, tout ça c'est ce que j'appelle le prédicat, parce que parmi les appels des signes, 1 continue. » Vous voyez ce que j'entends par choséification, quand vous dites de quelque chose qu'il est continu, on a plutôt envie de se le représenter dans l'espace. C'est continu. On reviendra sur continu, mais là, c'est le prédicat de 1 qui m'intéresse. Il est 1. Alors ça, c'est extrêmement important, parce qu'il y a une discussion très intéressante, qui a eu lieu depuis une vingtaine d'années, peut-être un peu plus, trentaine d'années, à la suite d'un article de Jonathan Barnes, qui enseignait ici avant que j'arrive, en septembre, et qui avait fait un article très fameux, très très bon, qui tendait à montrer que l'être de Parménide n'est pas un au sens numérique du terme. Alors vous vous souvenez que la thèse que tout est un vient et la formulation de la thèse de Parménide selon le sophisme de Platon. Tout est un au sens de il n'existe qu'une chose. Ce qui est un numériquement. Et Jonathan Barnes a contesté que cette lecture, disons, platonicienne de Parménide soit une lecture légitime, ou en tout cas une lecture nécessaire, et a avancé la thèse extrêmement intéressante selon laquelle le 1, le prédicat 1 attribué à l'être chez Parménide ne devait pas être entendu dans un sens numérique, mais dans le sens qualitatif, c'est-à-dire dans le sens de homogène. Il est un, non pas numériquement, mais par son homogénéité. Pardon ?
Ça veut dire sans partie.
Est-ce que ça veut dire sans partie ? Non. On peut distinguer des parties, mais toutes ces parties sont homogènes. C'est-à-dire qu'il n'est pas divers. C'est-à-dire qu'il n'a pas un bras, une tête et une moustache comme vous. Il est homogène. Il est partout identique à lui-même, si vous voulez. Il est un dans ce sens. Voilà. Cette notion de l'unité, d'unité non numérique, rend Parménide compatible, rend la thèse ontologique de Parménide compatible avec l'idée d'une pluralité d'êtres. Il peut très très bien y avoir plusieurs êtres, un. Il peut très bien y avoir plusieurs sujets du verbe être. Il peut très bien avoir plusieurs sujets du verbe être qui soient numériquement distincts et qui tous répondent à la caractéristique de être. Alors là, vous voyez, on se meut au niveau du sujet possible du verbe être, du sujet correspondant à sujet dont on peut dire qu'il est. Cette conception de cette interprétation du prédicat 1 chez Parménide, au sens d'homogène, qui rend possible la possibilité d'une pluralité de sujets, a des conséquences extraordinairement importantes sur la relation qu'entretient la première partie du poème et la seconde partie du poème, que je vous expliciterai à partir de la prochaine fois. Là, je vais simplement pas le temps de terminer, vraiment attirer votre attention sur ce prédicat. Voilà, alors écoutez, la prochaine fois, je vous expliquerai, mais lisez-le attentivement auparavant, je vous expliquerai deux choses, je vous expliquerai la fin de l'argument jusqu'à la comparaison de la sphère ou de la balle, tel que je l'ai traduit, et puis on parlera de l'articulation entre l'être et puis la cosmologie en revenant sur cette question de la pluralité de ce qui est. Voilà.